On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson, vous évoquez une admiratrice de Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Oui.
Je vous ai déjà parlé d'elle à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était à l'occasion de la nouvelle publication en français de sa très culte biographie sentimentale de l'huître, éditée chez Dalva. Elle, c'est MFK Fisher, grande autrice culinaire américaine, née en 1908 en Californie, débarquée à Dijon à l'âge de 20 ans, jeune mariée échappant ainsi à son destin tout tracé de housewife américaine. Dijon, là où son goût se forme, son appétit s'établit et son style se définit. La vie sera longue jusqu'à son décès en 1992. Beaucoup de livres, une carrière de scénariste pour la Paramount, plusieurs maris, deux filles élevées, fait rare à l'époque en garde partagée. En 1943, elle signe un livre qui est un essai autobiographique qui s'appelle « The Gastronomical Me ». Pas traduit en français. Dans l'une de ses dernières éditions, il est préfacé par une autrice culinaire contemporaine que j'aime beaucoup, Bea Wilson, qui écrit ceci. Il y a une générosité libératoire dans sa manière d'exposer les appétits intimes que la plupart d'entre nous s'acharnent à dissimuler. Personne n'a jamais eu autant confiance en ses propres fins, ni été aussi déterminé dans sa quête pour les combler. Alors c'est peu de dire que j'admire MFK Fisher, je radote un peu sur le sujet d'ailleurs. La partie d'elle que j'avais le moins explorée, c'était précisément son amour pour Brillat-Savarin, qu'elle découvre à Dijon et dont elle est la première à traduire en anglais la physiologie du goût en 1940. Sa traduction est un modèle du genre, il faudrait pratiquement traduire en français sa traduction en anglais de la physiologie du goût, surtout les notes de bas de page de cette Physiology of Taste, tant elles sont du MFK Fisher pur jus, brillantes, érudites, drôles, parfois triviales, sentimentales, où elle glisse ses propres digressions, comme son mentor, comme son modèle, des conseils tour de main. Dans un passage que Brillat-Savarin consacre au stade idéal de dégustation de tel et tel aliment. Je crois que c'est dans le petit chapitre variété de la fin de la physiologie. Il évoque les capres, les asperges qui nous régalent avant pleine maturité, le faisan qui se doit d'être maturé et sur le point d'entrer en decomposition, comme elle dit en anglais.
Putréfaction.
Exactement. À l'instar d'un fruit, la nèfle,
et oui,
qui occasionne
c'est
une
pas
note...
le seul d'ailleurs. Enfin,
c'est pas le seul, non, c'est absolument pas le seul. Ouais. Qui occasionne une note de bas de page dans laquelle elle évoque des souvenirs. Au cours de mon enfance dans le sud de la Californie, les nèfles sont les seules choses que j'ai jamais volées. Elles me donnaient toujours l'impression de ne pousser que devant les maisons les plus austères, de vieilles femmes acariâtres, prêtes à hurler au moindre de nos chapardages. Il reste peu de ces hauts arbres verts sombres, et la plupart des gens ne connaissent pas la volupté de ces fruits presque gâtés, et n'ont pas senti sous leurs doigts le satin de leurs pépins bruns, cette si grande délicatesse. Plus tard, on croise le mot de ketchup dans cette version en anglais de la physiologie. Ce qui m'a surprise, donc j'ai filé lire la note de bas de page dans laquelle elle précise que dans la version originale, c'est le mot peu courant de calchup, C-A-L-C-H-U-P, qu'elle traduit donc par ketchup, qu'elle appelle également catsup, probablement dérivé du chinois ketsiap, une sauce poisson saumurée. C'est vous dire comme elle est érudite aussi. Elle ajoute, je suis certaine que que d'Albignac, le personnage qui est évoqué par Brillat-Savarin, utilisé à Londres, était une préparation aux noix ou aux champignons, avec peut-être même du sureau, des huîtres, ce qui a peu à voir, vous en conviendrez, avec l'onctueuse potion écarlate que tout bon Yankee connaît sous le nom de ketchup. Et de livrer sa recette à elle de oyster catsup, qui était très à la mode dans les foyers américains du temps du professeur. C'est ainsi qu'elle appelle Brillat-Savarin dans ses notes de bas de page.
Lui-même s'appelle le professeur.
Il s'appelle le professeur, ouais. Hacher quelques huîtres, les faire revenir quelques minutes dans leur eau avec un peu de vinaigre de cidre, filtrer, puis cuire avec du sherry, du poivre moulu et de la noix muscade, mettre en bouteille et conserver au frais. C'est ça le catsup de MFK Fisher via Brillat-Savarin.
Ça doit être particulièrement umami, justement.
Pas mal, oui, très umami. L'huître, la grande affaire de MFK Fisher, passionnée par ce bivalve, comme elle était passionnée par Brillat-Savarin, qui l'a inspirée dès son premier livre en 1937, le récit donc de sa vie de jeune femme à Dijon. Je vous donne dans le mille, comment s'appelle ce livre ? Le fantôme de Brillat-Savarin. Traduit en français, disponible ici en poche au serpent à plumes. Mmh. Une petite révolution dans la littérature culinaire, parce que c'est justement l'œuvre d'une écrivaine et non d'une rédactrice de recettes. Dans vos assiettes devant vous, j'ai disposé quelque chose à goûter pendant que je vous lis un dernier extrait.
Une petite douceur avec plaisir.
Douceur. Nous reniflâmes la moutarde de Dijon, surtout au carrefour où Grey Poupon vous étale ses petits pots sous le nez. À l'automne, nous reniflâmes le cassis de Dijon, nous souillant même la bouche de son violet métallique. Mais toute l'année, partout, nous reniflâmes le pain d'épices de Dijon. Ce pain d'épices arrivé d'Asie, dans les ballots du croisé fatigué. Son odeur étrange et fade, odeur de miel, de bouse de vache, de clou de girofle, et d'un ingrédient qu'on ne parvenait pas à situer, mais qu'on ne pouvait pas non plus confondre avec quoi que ce fût d'autre, envahissait la ville entière. Parfois, une petite bouffée de son parfum se faufilait jusqu'à l'intérieur du théâtre, où traversait à toute allure un café gris de fumée. Il lui arrivait même, dans les églises, de triompher un bref instant de l'odeur de l'encens.
Oh.
Alors j'en viens à ma conclusion. Allez, j'ose. Brillat Savarin, traduit par ce génie de M.F.K. Fischer, est-ce que c'est pas peut-être encore mieux que Brillat Savarin dans le texte? Jean-Robert Pitt, ce sera à vous de nous le dire. Voici pour vous de
Jean-Robert
Physiologie Pitt,
s'étouffe avec
non, je ne m'étouffe pas, mais je pense que les deux sont complémentaires, qu'elle a aimé Brillat Savarin, oui. Et elle lui a tressé un éloge formidable. Ce livre, Le fantôme de Brillat Savarin, est magnifique, où elle décrit entre autres le repas qu'elle fait chez Racouchot, qui était le grand restaurant de Dijon, qui malheureusement n'existe plus, où on restait quand même quelques heures à table, et où on servait du gibier, des truffes, etc.
C'était un récit magnifique.
Absolument merveilleux. Mais ce pain d'épices, là,
il est merveilleux aussi.
Délicieux.
On peut dire que c'est du pain d'épices, oui.
C'est du pain d'épices qui vient de la maison Donon à Saint-Aubin-sur-Yonne.
Voilà. Et je trouve que ce pain d'épices est merveilleux parce qu'il y a vraiment des épices. Ah. Et je reconnais une épice, enfin, je ne sais pas si tout le monde la trouve autour de la table. Il y a du clou girofle, mais il y a aussi du gingembre, je pense.
Oui, gingembre moulu.
Et ça, c'est formidable. C'est le vrai pain d'épices qui est en fait une. Il y a des pains d'épices dans. Il y a encore aujourd'hui des pains d'épices en Belgique, en Allemagne, dans toute l'Europe restée qui a gardé une cuisine médiévale. Et en France, ça s'est maintenu dans l'Est de la France, c'est-à-dire c'est
en
Dijon,
Alsace,
c'est Reims, c'est l'Alsace, c'est le Nord.
Absolument.
Le Nord. Et ça n'existe pas dans le Midi de la France, et ça n'existe pas normalement en Île-de-France, où on a une cuisine qui a évacué tout ce qui était médiéval, c'est-à-dire ce mélange du salé, du sucré et des épices qu'on a ici dans ce pain d'épices qui est absolument délicieux.
Ah oui. Merveilleux. Et puis particulièrement moelleux en plus.
Il est moelleux.
Souvent, le pain d'épices est un peu sec.
Et moi, je boirais un Madère avec ça. Brillat Savarin aimait beaucoup le Madère.
S'il vous plaît, Jérôme Gagnès, un Madère.
Non, j'ai pas de Madère. J'ai pas de Madère en cave là tout de suite. Mais oui, j'aime beaucoup ce pain d'épices. Il est moelleux. Il est pas collant. Il est très agréable en termes de texture. Et puis, en plus du gingembre que vous avez senti, Jean-Robert, moi, je trouve qu'il y a un côté agrume et orange relativement marqué.
Oui.
Et j'aime beaucoup
c'est
ça.
C'est très riche. Hein, très riche.
C'est très complexe. C'est vraiment très bon.
Ça. Merci pour ce petit cadeau tout en douceur, chère Elvira Masson.